secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Leïli Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Michel Bernot. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du père Philippe Dautet pour parler des puissances spirituelles de l'Éros. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue aux Racines du Ciel.
Merci.
Philippe Dautet, vous êtes prêtre orthodoxe du patriarcat de Roumanie et vous avez fondé, il y a 28 ans déjà, avec votre épouse Eliante, le centre Sainte-Croix en Dordogne.
Il y a 32 ans déjà.
Il y a 32 ans déjà, pardon. Centre au sein duquel vous proposez des sessions intitulées « Chemin de guérison ». Et centre aussi dans lequel, d'ailleurs, Annick de Souzenel a longtemps pu transmettre son enseignement basé sur une approche intériorisée des textes bibliques et de la symbolique des lettres hébraïques. Ce dont d'ailleurs elle était venue nous parler ici aux Racines du Ciel il y a quelques semaines. Maintenant qu'elle a dû s'arrêter en raison de son âge avancé, et malgré d'ailleurs sa bonne santé, c'est vous qui avez repris le flambeau de cet enseignement. Et donc vous le transmettez dans ce centre Sainte-Croix. Vous avez publié « Le chemin de l'homme selon la Bible » chez Desclée de Brouwer, « Si tu veux entrer dans la vie », Nouvelle Cité, et vous venez de publier, tout récemment, aux éditions Nouvelle Cité, « Éros et liberté, clé pour une mutation spirituelle ». Dans cet ouvrage, vous traitez de la question de l'éros, de ces puissances qui, dirigées vers le haut, peuvent nous permettre de réaliser notre perfection humaine, et divine d'ailleurs, mais qui peuvent aussi, mal utilisées, mener l'être humain à la perte de soi et du sens. Éros, puissance de vie, puissance de feu, puissance de mort. Éros transfiguré, transfigurant. Autant de pistes que nous allons tenter d'explorer avec vous aujourd'hui. Et pour cela, il est peut-être bon que nous tentions une définition, pour commencer. De quoi parlez-vous, Philippe Dautet, quand vous parlez d'éros?
Lorsque je parle d'éros, je parle d'élan de vie, de la pulsation de vie qui habite chaque être humain. Et je crois qu'il est important d'ouvrir l'éros au-delà de la dimension pulsionnelle, parce que dans notre société, nous avons tendance à la réduire à la dimension de la sexualité, à la dimension pulsionnelle. Or, il est bon que chacun soit porté par cet élan de vie et porté pour que, par cette puissance, il puisse aller vers son plein accomplissement, vers la pleine humanisation de son être, la pleine réalisation spirituelle. Donc, Eros, c'est lié avec le désir. Donc, il y a l'élan et le désir. On sait très bien que dans la rencontre amoureuse, l'élan et le désir sont fondamentaux, mais pas suffisants. Donc, l'Eros est complété par une autre dimension de l'amour qui est philia. Philia, c'est l'amitié, c'est la complicité, c'est le fait de vivre et de participer avec l'autre à toute une organisation de la vie et puis en même temps à des liens profonds de cœur à cœur. Et puis, ensuite, il y a charis, qui est toute la dimension de la générosité, qui est aussi de la dimension de l'amour. Et puis, l'agapé, qui est l'amour don de soi, l'amour sans attente, l'amour qui est le pur mouvement du cœur. Et donc, voilà, tous ces éléments se complètent. On peut pas exclure l'un de l'autre. Et je crois qu'il n'y aurait pas d'agapé et de philia sans éros. Donc, pour moi, et c'est clair du point de vue aussi grec, l'éros est au fondement. Et comme le disait un grand spirituel qui est Saint Macaire d'Égypte, sans éros, il n'y aurait pas de sainteté. Sans éros, il n'y aurait pas non plus d'accomplissement de l'amour. Donc, l'éros est comme ce flux qui traverse toutes les dimensions de l'être et qui nous permet d'atteindre à, effectivement, des colorations de l'amour qui sont de plus en plus subtiles.
Alors, vous commencez déjà par faire un état des lieux sur les mauvaises directions que peuvent et qu'a pris d'ailleurs l'éros tout au cours de l'histoire humaine. Vous semblez quand même considérer que notre époque est particulièrement encline à un mauvais usage de cette puissance de l'éros. Alors d'abord, pourquoi et comment expliquez-vous ce débridement d'une certaine façon de l'éros dans un sens horizontal au lieu que ça mène vers un désir vertical?
Voilà, je crois que ce qui caractérise notre époque, c'est le fait de l'investissement dans l'existentiel. avec l'investissement dans l'économique, dans le financier, dans tout ce qui est, qui peut être atteint, en tout cas du point de vue, qui peut améliorer la vie du point de vue existentiel. Et il y a une perte ici du sens profond de la vie, qui ne peut pas être limité à l'horizon existentiel et qui est appelé à justement fleurir dans une dimension spirituelle. J'entends par là une dimension d'humanisation, c'est-à-dire une qualité relationnelle, donc l'amour, effectivement. Et l'amour, ça signifie le respect, la bienveillance par rapport à l'autre, et donc ça signifie ici des qualités de cœur. Et je crois que le développement de l'économie, le développement social actuel va au détriment d'une certaine humanisation. Il s'agit de regarder dans les hôpitaux, dans les entreprises, et on voit la maltraitance aussi un peu partout. Donc c'est effectivement autant de déviations. Et je crois que la question de l'héros à la liberté, je la trouve actuelle dans le sens où, en fait, il y a les forces de vie en nous et il y a ce que l'on en fait. Et aujourd'hui, clairement, on investit ces puissances de l'héros à l'horizontale avec des choses prodigieuses, mais en même temps avec des impacts sociaux et des impacts humains qui sont aussi terribles. Et donc, nous voyons comment l'héros mal orienté peut produire des effets délétères.
Alors simplement, aujourd'hui, c'est plus visible. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ce mauvais usage, à la fois, disons, cette façon de mal cibler le désir, et on va y revenir puisque le mot péché en réalité veut dire ça, hein, voilà. Rater sa cible. Donc cette façon de mal cibler son désir et mal utiliser sa liberté au fond, est-ce que c'est pas depuis Adam que c'est comme ça finalement?
Ça a pas
vraiment changé.
Ça a pas changé du tout. Sauf que nous sommes à une époque où les choses sont manifestes. On n'a jamais vu autant clairement la déviation. On n'a jamais vu non plus une amplification. Et nous allons jusque vers la démesure donc les choses sont flagrantes, presque caricaturales aujourd'hui. Et je crois que nous avons ce bénéfice au XXIe siècle, qu'il s'agit pas ici d'avoir une argumentation pour essayer de absolument démontrer que les choses sont visibles, sont tout à fait manifestes. Et de ce point de vue-là, je crois que nous allons vers une amplification de la démesure et de la caricature de ces différentes orientations. Et je crois que aujourd'hui, la crise que nous traversons vient du cœur de l'homme, puisqu'elle s'enracine dans la convoitise, dans l'avidité, dans l'appât du gain, dans le fait du désir de jouir de tout de suite. Et que, en fait, si la crise est enracinée dans le cœur de l'être humain, alors elle est spirituelle, plus qu'économique et financière. Et c'est bien à partir de l'orientation du désir qu'il s'agit de considérer la crise actuelle pour pouvoir muter positivement et participer à la mutation positive de nos sociétés. C'est pour ça que je pense que le sujet est tout à fait actuel.
Oui, d'ailleurs, en vous lisant, en fait, je me disais, évidemment, les choses n'ont pas changé. Peut-être ce qui a changé de manière très radicale, c'est que, effectivement, depuis toujours, cette mauvaise orientation existait. Simplement, j'ai quand même l'impression qu'à notre époque, on considère cette mauvaise orientation comme une valeur. Et vous en parlez beaucoup sur le fait que ce que l'on considère comme étant la valeur liberté, c'est souvent la liberté extrêmement mal entendue, que ce soit sur le plan économique, le libéralisme, qui est quand même très, très valorisé dans les démocraties en particulier, ou que ce soit la liberté, comme la liberté à la mai 68, c'est-à-dire il est interdit d'interdire, et donc une liberté qui n'a aucune limite, qui ne met aucune limite à mes désirs. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce qui a changé, et dans ce sens, ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une crise spirituelle dans le sens où on ne se rend même plus compte que c'est une déviation du désir. Alors qu'avant, bon, il y avait la déviation, mais au moins on savait que c'était pas très bon pour nous. Maintenant, alors comment changer cela? Comment faire comprendre qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui se passe dans cette perversion des valeurs, en réalité, Philippe Dautet?
Je crois qu'il y a une perception de cela, parce que il y a quand même, je dirais, toute une mutation intérieure et un éveil de conscience qui accompagne la crise actuelle. Et peut-être, justement, les choses sont tellement mises en évidence que ça ça vient heurter la conscience humaine et qu'il y a un réveil. Donc je crois que pour moi je suis assez optimiste parce que je vois cet éveil de conscience qui devient quelque part proportionnel à la problématique. Donc par rapport à cela, j'ai pensé nécessaire de bien distinguer différentes acceptions du mot liberté. Puisque, voilà, si on parle d'orientation de l'éros, on parle de liberté, on parle de ce que nous faisons de l'éros. Et donc, je crois qu'il est important, effectivement, de situer la liberté dans ce qu'elle est. Alors, il y a la liberté 68arde, ce que j'ai appelé la licence. C'est-à-dire, la licence, c'est je suis libre parce que je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, si je veux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite et je n'accepte pas, et aujourd'hui on le voit bien, de limite à ma liberté, et je veux pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire dans l'instant et sans qu'on me mette d'entrave en quoi que ce soit. Donc ça c'est la licence, mais est-ce que la licence est vraiment une liberté? Et ça n'est pas du tout gagné parce que on sait très bien que sous le registre de la licence, on est sous l'emprise de conditionnement, sous l'emprise de l'inconscient, sous l'emprise de toutes les influences et même peut-être des spots publicitaires, etc. Et en fait, faire ce que je veux quand je veux, je suis quand même très manipulé dans ce que je veux. Donc, ce n'est pas une vraie liberté. Ensuite, il y a la deuxième acception qui a été tout à fait mise en évidence dans les milieux religieux, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, je peux choisir entre ceci et cela. Mais choisir est une indigence. Choisir entre un produit et un autre, est-ce qu'on ne participe pas toujours d'un même système? Est-ce que c'est vraiment une liberté? Et comme... lisait Sacha Guitry, mais quand j'ai choisi une femme, je dois renoncer à toutes les autres. Donc il y a une frustration dans le choix et qui fait que est-ce que le choix est une vraie liberté? Donc je propose une voie sur la troisième dimension, c'est-à-dire l'accès à la liberté, qui veut dire l'affranchissement de tous les conditionnements et le fait d'être libre par rapport à toutes les influences du monde et libre par rapport aussi aux pulsions et à tout ce qui peut jouer en nous, malgré nous, et nous fait faire ce qu'on ne veut pas faire. Donc, tout un chemin, en fait. Donc, ça veut dire que la liberté n'est pas acquise, comme on pourrait le croire, et c'est là où il y a peut-être une impasse, mais la liberté est à acquérir. Nous sommes en dynamique de possibilité de libération. Donc de trouver une pleine liberté, ça veut dire une certaine distance par rapport au monde et au lieu de jouer le jeu du monde, de pouvoir entrer dans un regard sur le monde et certainement de pouvoir vivre le monde comme un tremplin et non pas comme un lieu d'enfermement et d'aliénation.
Oui, alors, et d'ailleurs, vous étendez aussi cette analyse sur un plan plus général, plus collectif, hein, social. Là, vous avez parlé de l'aspect individuel. Mais en effet, les sociétés en elles-mêmes, surtout les sociétés démocratiques, peuvent aussi tomber dans le travers de croire que la liberté, c'est juste laisser faire chacun les lois du marché, ou en tout cas, que voilà. Chacun fasse ce qu'il a envie de faire et que la collectivité se dirigera automatiquement vers plus de liberté, ce qui est évidemment, on le constate aujourd'hui, une terrible erreur.
Tout à fait. Mais je crois que, tout d'abord, il s'agit de souligner la liberté comme le fruit d'une lutte. Et donc, les sociétés ont lutté pour la liberté. Et je crois qu'il s'agit d'honorer cela, parce que c'est une liberté d'aller et venir, c'est une liberté de conscience qui est fondamentale pour les sociétés humaines. Et donc, je respecte et j'honore cette dimension de la liberté, qui est aussi le fait du respect de l'autre. Donc, de ce point de vue-là, je comprends que les sociétés et les politiques mettent en avant la liberté, car c'est un gain des sociétés qui est magnifique. Maintenant, il y a les ambivalences que j'ai nommées auparavant. Et donc, quand on voit du point de vue de l'économie, par exemple, on a absolument promu la dérégulation. Ça veut dire que c'est le politique qui est à la remorque des lobbies et non pas le politique qui peut avoir une autorité sur les entreprises, sur les multinationales, etc. Et qui fait que les populations souffrent de ce retrait du politique, parce que le politique, c'est quand même la continuité de la voix populaire par les élections. Et si le politique n'a plus les clés pour gouverner, en tout cas, la nation, et puis même au niveau mondial, maintenant avec la mondialisation, il y a une certaine mondialisation de lois du marché qui déborde complètement la volonté populaire. Et là, il y a une problématique que du point de vue spirituel, j'estime pathologique. C'est-à-dire que si les pulsions ou mes mouvements intérieurs me débordent, clairement, je suis dans un état pathologique et j'estime qu'aujourd'hui, les sociétés, de ce point de vue-là, sont dans un état pathologique qui est problématique et qui va conduire vers des lendemains de souffrance.
Oui, et d'ailleurs, ce que vous proposez pour travailler à ces questions de débordement pulsionnel, que ce soit au niveau individuel ou collectif, c'est un travail justement de connaissance de soi. C'est-à-dire, pour vous, la connaissance de soi, c'est vraiment une connaissance très approfondie de mes conditionnements, de ce qui m'empêche au fond d'être libre. C'est vraiment très associé à la conquête de la liberté. Pour vous, c'est pas juste une connaissance pour la connaissance, mais véritablement une conquête au fond sur soi-même. Alors expliquez-nous comment vous envisagez l'articulation entre connaissance de soi dans un sens de sagesse et de spiritualité, et aussi de conquête de la liberté.
Pour atteindre à la liberté, il s'agit de voir en quoi je suis aliéné, en quoi je suis esclave de mes pulsions, de mes mouvements intérieurs, de mes états d'âme, etc. Et au point de vue du collectif, et en quoi je suis, par exemple, esclave de l'argent. Donc, c'est en posant un regard sûr. Donc, ça suppose un éveil spirituel, c'est donc un éveil de conscience. Au lieu d'être totalement conditionné et de ne pas voir ce qui se passe en moi, il s'agit de poser un regard sûr. Et je propose tout un passage ici de passer sous l'emprise d'eux vers l'acquisition de l'autorité sûre. Donc, libération. Cette libération s'appuie sur un point fondamental, c'est que au départ, nous sommes tous des êtres conditionnés. Et c'est en acceptant de voir que nous sommes des êtres conditionnés que nous allons pouvoir nous libérer des conditionnements, et nous avons la capacité de le faire parce que notre capacité de conscience est une capacité de poser un regard sûr pour se libérer de l'emprise d'eux. Et donc c'est tout un chemin de libération, et je propose donc ce chemin de liberté. Donc la connaissance de soi est le chemin par lequel nous pouvons aller vers une libération intérieure pour finalement accéder à soi-même et accéder au fait que je puisse être pleinement moi-même dans le regard de l'autre et libéré de tous les conditionnements, les influences. Et c'est cela, le chemin spirituel. D'ailleurs, dans la voie chrétienne, mais dans toutes les voies spirituelles, nous retrouvons la même réalité. Et ce qu'on appelle l'être libéré en Inde, par exemple, c'est celui qui s'est affranchi justement des conditionnements dans lesquels qui sont marqués par son incarnation. C'est-à-dire, à partir du moment où nous entrons dans le monde, nous sommes conditionnés par les mémoires personnelles, familiales, nous sommes conditionnés par les réalités sociales, culturelles, etc. Et comment l'être humain peut émerger de ces conditionnements pour accéder à lui-même.
Oui, alors d'ailleurs, il ne s'agit pas que des conditionnements, puisqu'il s'agit aussi, pour devenir un libéré précisément, il faut aussi se libérer des attachements. Voilà. Alors, quel type de travail vous proposez pour se libérer de ces attachements? Parce que ça, c'est encore plus difficile peut-être que de se détacher de ces conditionnements.
Les voir, les accepter, ces conditionnements, et s'en désidentifier. Pour moi, la question, le problématique, c'est pas la question de l'ego, c'est la question de l'identification à l'ego. Je peux très bien jouer un rôle, à condition de ne pas me mentir et de ne pas m'identifier à ce rôle que je joue. Donc, pouvoir poser encore un regard. Et c'est là où, en fait, il y a toute la dimension de l'exercice spirituel, qui est la méditation, ou qui est la prière, qui permet de prendre de la hauteur par rapport au monde extérieur, d'une distance, et permet de prendre de la hauteur par rapport à mon monde intérieur. Ainsi, de ne pas m'identifier, justement, à ces réalités, de ne pas réduire le désir aux objets du désir et de ne pas m'enfermer dans les réalités extérieures, mais de pouvoir trouver toujours un espace de liberté. Mais cela, ça s'exerce.
Alors justement, comment ça s'exerce? Vous avez donné une piste en parlant de méditation et de prière, mais entrons un peu plus dans le détail des méthodes que vous employez, tout simplement, que vous proposez, y compris au Centre Sainte-Croix, quand vous recevez des gens qui viennent faire des retraites ou qui viennent recevoir un enseignement, qui d'ailleurs est assuré, je le signale, par différents intervenants. Il n'y a pas que vous qui intervenez.
J'ai le plaisir d'accueillir plein d'intervenants.
Voilà, toutes sortes d'intervenants qui viennent d'horizons spirituels, d'ailleurs, variés.
Tout à fait.
Je le précise pour pas qu'on pense que
Nous sommes tout à fait ouverts. Et pour nous, nous sommes dans l'axe anthropologique et tout ce qui intéresse l'homme nous intéresse. Et de ce point de vue, ça dépasse toutes les frontières de la chrétienté.
Voilà, donc bon, revenons à ce que je disais. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme travail sur le plan de manière plus détaillée, je dirais, pour engager, d'abord commencer pour certains, et puis ensuite continuer et perfectionner ce travail qui permet de rentrer en relation avec ses propres profondeurs ou ses propres hauteurs, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est peut-être voilà. La même chose au fond.
Voilà. Donc, il y a deux versants à cette approche qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualité. Premier versant, l'intériorité, donc la descente en soi-même, et pouvoir... descendre dans sa profondeur intérieure, c'est le mouvement de la méditation, donc pratique de la méditation, premier aspect. Et deuxième aspect, c'est la dimension thérapeutique qui est tout à fait complémentaire. Et d'ailleurs, le Christ dit dans les évangiles, veillez et priez. Et donc, il nomme la vigilance qui, pour moi, est toute la dimension thérapeutique en complément de la prière, car il ne s'agit pas de faire des plaqués or sur une jambe de bois, mais d'aller voir tous les obstacles et tout ce qui fait que je ne peux pas atteindre justement à cette liberté intérieure. Donc il s'agit de passer par toute l'analyse, psychanalyse au sens littéral, c'est-à-dire l'analyse de la psyché, pour voir quels sont les obstacles et puis aussi quelles sont les illusions dans lesquelles je suis déjà rentré. Et donc de pouvoir, par un processus intérieur, poser un regard clair sur soi et en même temps pouvoir se dégager de toutes les emprises extérieures et intérieures.
Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Les racines du ciel, Léon Var.
Vous avez une très grande attention, il me semble, à la question psychologique. C'est-à-dire la psyché est quand même une interface entre les deux, si je puis dire. Et vous insistez beaucoup sur le fait qu'on ne peut pas mener un travail de libération spirituelle si on n'a pas en même temps, ou en tout cas au préalable, mais j'ai l'impression que c'est plus en même temps d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas séparer les choses, faire un travail de entre guillemets, de nettoyage psychique, c'est-à-dire de vraiment voir clairement les choses comme elles se passent. Est-ce que, du coup, vous proposez aussi un temps d'écoute aux gens? Est-ce que les gens peuvent aussi s'exprimer? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent faire seul? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait seul ou quelque chose qui doit se faire de manière accompagnée, Philippe Dautet?
Tout d'abord, on ne peut pas aller vers soi-même en faisant l'impasse de soi. Et pour moi, clairement, aller vers Dieu et aller vers soi, c'est la même chose. On ne peut pas aller vers Dieu qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes en faisant l'impasse de soi-même. Si on ne veut pas faire l'impasse de soi-même, alors il s'agit de regarder les choses en face. Donc c'est toute la dimension thérapeutique qui suppose un accompagnement, car toute l'approche thérapeutique suppose la relation avec l'autre. Donc c'est par l'autre que je peux aller vers moi-même, et ce qui signifie tout un accompagnement. Et bien sûr, nous proposons un accompagnement au cours de nos retraites à Sainte-Croix, et nous avons une équipe de personnes spécialisées, professionnelles, qui sont ou psychanalystes, ou médecins psychiatres, ou psychothérapeutes, parce que pour moi, il est très important qu'apportant la dimension spirituelle, la dimension psychologique soit tout à fait présente aussi.
Et prise en charge.
Et prise en charge complètement. Voilà. Donc on navigue sur ces deux aspects, car c'est en passant par la purification du psychologique qu'on va au spirituel. Sinon, on peut se raconter plein d'histoires, et c'est pas vrai qu'on peut atteindre vraiment à la qualité spirituelle qui est une vérité sur soi-même, en faisant l'impasse du psychologique, pour moi, c'est une conviction profonde. Et donc, il y a intégration du corps, c'est-à-dire qu'on passe par le corps, parce que le corps, c'est le lieu de l'expérience. Et j'oserais dire, du point de vue chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit, donc ce n'est pas rien. Et c'est dans le corps que se vit le chemin d'accomplissement. Donc ça demanderait un développement, c'est-à-dire que le Christ sur la croix, c'est au bout de son incarnation qu'il dit « tout est accompli ». Et c'est dans le corps que ça s'est vécu, donc le corps est fondamental. La psyché, c'est tout le lieu de purification, parce que ce qui nous manque, ce n'est pas la lumière, mais ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais c'est nous qui manquons à la lumière. Ce n'est pas la grâce qui nous manque, mais c'est nous qui manquons à la grâce. Donc nous avons à purifier le miroir, c'est-à-dire le fait d'accueillir et le fait de participer pleinement à cette lumière. Et c'est tout le travail thérapeutique. Voilà. Et donc, il y a ici la prise en compte de l'être humain dans son entier, dans une vision unitive qui, pour moi, est une vision sémite. Là où la vision grecque, elle est dans une dichotomie corps et âme, ou je dirais dimension visible et dimension invisible, dans la dimension sémite, nous avons une vision unitive. C'est-à-dire qu'un juif n'a jamais vu un corps. Car il n'existe pas de corps qui se promène dans la rue sans âme et sans conscience. Donc on voit quelqu'un, c'est beaucoup plus qu'un corps. Bien sûr, on le voit par le corps, mais on voit et on est en présence de quelqu'un. Donc c'est cette vision unitive qui n'est pas saucissonnée, qui est pour nous notre axe fondamental. Donc s'ouvrir à l'être humain, pour nous, c'est lui s'ouvrir à toute cette dimension, certainement dans son incarnation et son corps, dans sa dimension de la psyché et de l'âme qui est magnifique, et puis dans sa dimension de conscience. Et le but de la vie, c'est de devenir pleinement vivant et pleinement conscient.
Alors c'est aussi pour ça, je crois, que vous avez, j'ai vu dans votre programme, que de temps en temps, vous avez des sessions dans lesquelles vous pratiquez la ténoua. Vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est, hein, cette danse, c'est une forme de danse en fait, qui est inspirée par les lettres hébraïques, je crois, ou que vous pratiquez aussi l'art de l'icône, vous enseignez aussi l'art de l'icône. C'est-à-dire vraiment le passage aussi par ce contact en fait avec les talents du corps, si je puis
les
dire.
Les talents du corps. Oui, donc l'icône pour nous c'est magnifique parce que c'est le sommet de toute la théologie chrétienne. Et le sommet de toute la théologie chrétienne aboutit au visage. Donc l'icône c'est le visage. Et c'est tout le visage au sens où en fait je rencontre l'autre par le visage. Et c'est tout en référence avec Lévinas qui a parlé magnifiquement du visage. Et donc le visage dit. L'âme est dit l'autre dans sa dimension totale, et donc le visage dit aussi l'incarnation. Voilà. Et donc l'icône, elle dit en peinture et elle dit dans une expression artistique ce qui est, je dirais, l'aboutissement de tout le chemin intérieur, c'est-à-dire devenir visage. Ça veut dire devenir, accéder au jeu, accéder à sa dimension personnelle, unique que nous sommes, et la dimension unique de chacun s'exprime dans le visage. Et puis, la ténoua, maintenant qui s'appelle Teïma, c'est toute une gestuelle des lettres hébraïques, voilà, qui fait partie d'une intégration corporelle.
Oui, alors j'ai l'impression, on a presque l'impression que c'est une incarnation du verbe qui se fait chair, non, cette
ténoua. D'une certaine manière.
Ce sont les lettres qu'on doit imiter dans son corps.
Qu'on doit
faudra
vivre,
faire une émission sur cette pratique. Oui.
Voilà.
Mais peut-être que vous pouvez nous en dire quand même deux mots avant, en attendant une émission future.
Oui, enfin, j'aurais voulu qu'on parle aussi de la dimension de l'éros en tant qu'amour, parce que j'ai parlé aussi de.
On a le temps. On a le temps. Voilà. Ne vous inquiétez pas.
Très bien. Oui. Voilà. Donc. Donc la Teïma, elle a été mise en place par Tina Lalou, parce que nous avons travaillé beaucoup avec Annick de Sezonel. Donc effectivement, les références hébraïques nous parlent Tina a accompagné Annick dans les sessions pour présenter justement toute une gestuelle pour vivre de l'intérieur ces lettres. Alors les lettres hébraïques, elles sont toute une poésie en elles-mêmes, à savoir qu'en hébreu, chaque mot a sa propre signification. En français, on peut faire l'exégèse d'un mot et essayer de le mettre en résonance avec le vécu. Mais l'hébreu parle par lui-même. Et chaque lettre a une résonance profonde et en même temps hautement signifiante. Elle nous relie directement au verbe divin, dirait Annick de Sezenel. Et dans ce sens-là, la Théima est une manière effectivement, de faire le lien entre ce que je suis dans mon incarnation et ce à quoi je suis relié dans la dimension la plus intérieure, c'est-à-dire céleste.
Oui, alors un autre point de la façon dont vous approchez cette question de l'éros et de la liberté, c'est la sexualité. Et j'aimerais qu'on en parle un peu ici parce que c'est assez original. Alors je sais bien que vous êtes prêtre orthodoxe et que donc dans l'orthodoxie la sexualité est moins taboue d'une certaine façon que dans le catholicisme. Néanmoins, on est étonné de trouver sous la plume d'un prêtre, fût-il orthodoxe, une telle glorification au fond de la sexualité perçue comme précisément incarnation de l'amour au sein d'un couple, comme une sorte d'apothéose, je dirais, de la relation amoureuse. Alors dites-nous un mot de comment ça s'articule dans votre perception du christianisme, comment donc cette sexualité s'articule à votre idée de l'amour dans le christianisme, Philippe Dautet.
Je crois pour bien le faire comprendre aux auditeurs, je vais partir du rite du mariage dans la tradition orthodoxe.
Donc que vous décrivez, qui est magnifique.
Que je décris parce qu'il n'est pas connu. Et je crois que là, on situe les choses. Et c'est important que je prenne référence dans ce rite pour bien développer par rapport à la question que vous me posez. Donc, dans le rite, tout d'abord, il y a le moment des fiançailles qui se fait à l'entrée de l'église. Le moment des fiançailles, c'est le moment où on échange l'alliance. C'est le moment où ceux qui ont, les deux qui se sont élus l'un l'autre, l'homme et la femme qui veulent se marier, échangent leur alliance pour signifier par là, d'abord qu'ils s'aiment, d'abord que l'amour est humain et qu'il ne vient pas de Dieu, c'est pas Dieu qui a fait se rencontrer les personnes, c'est elles qui se sont rencontrées, qui se sont élues elles-mêmes, et donc c'est leur propre responsabilité, leur propre liberté, et ça c'est fondamental. Et puis ensuite, parce qu'ils s'aiment, ils désirent faire alliance ensemble, c'est-à-dire marier leur vie. Et le sens de ce mariage va être donné dans la deuxième phase. Le prêtre les conduit ensuite vers le sanctuaire. Et puis, après des lectures, il va les couronner pour dire que le mariage a une dimension mystique à l'égal de la vocation monastique. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler parce qu'on a mis en évidence le fait que la vie monastique était une vie supérieure, etc., et qu'il y avait une certaine dévalorisation de la vie du mariage. Mais non, je pourrais citer ici des pères de l'Église qui s'insurgent contre cela, et il y a ici, dans le mariage, une dimension mystique célébrée dans la Bible. Ce n'est quand même pas pour rien que le Cantique des Cantiques est le livre médian de la Bible, et donc on peut atteindre plein accomplissement par le mariage. Ce qui va être signifié dans ce couronnement. Couronnement, ça veut dire accomplissement. Donc, on a des couronnes, clairement, qu'on va poser sur la tête. Et quand le prêtre pose la couronne sur la tête du futur marié ou de celui qui se marie, il dit « Le serviteur de Dieu est couronné par la servante de Dieu, une telle. » Puis après, à l'inverse, la servante de Dieu, une telle, est couronnée par le serviteur de Dieu, un tel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que la vocation spirituelle du mariage, c'est l'accomplissement de chacun par l'autre. Ce qui veut dire qu'on ne peut atteindre au plein accomplissement de soi que par l'autre, pas par soi-même. Donc on sort ici de l'égocentrisme pour entrer dans cette dimension de communion et de visage à visage, comme nous disions tout à l'heure, de regard à regard, et dans la perspective justement d'atteindre à sa pleine humanité par l'autre. Et je trouve ça fondamental de le dire. Et que dans ce chemin, il s'agit de s'unir en tant qu'âme, d'âme à âme, et de s'unir aussi dans un accord des consciences, et de s'unir jusque dans les corps. Et les corps participent aussi pleinement du mariage, car cette union doit être totale, et l'union mystique suppose aussi le corps. Et je crois que c'est toujours important de le rappeler. Et je voudrais faire référence ici à tout le message biblique. parce que là, nous sommes dans tout le sens profond de la spiritualité chrétienne et biblique, dans le sens où la création est un processus de différenciation. Quand Dieu crée, il différencie cieux, terre, lumière, ténèbres, haut d'en haut, haut d'en bas, sec, humide, Adam, Adama, masculin, féminin. Et ces distinctions sont faites pour des mariages successifs. Il s'agit de distinguer pour unir, ça veut dire qu'il n'y ait pas d'indifférencié et que le fusionnel est la perte d'identité de chacun. Par contre, il s'agit que chacun soit révélé dans sa pleine identité par la relation à l'autre. Donc nous n'allons pas vers l'anéantissement de notre singularité, mais vers l'exaltation de notre singularité par l'autre. Et ce n'est pas sans l'autre, c'est toujours par et grâce à l'autre. Et donc c'est tout ce processus de mariage, il court toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse, car le livre de l'Apocalypse dit d'ultime mariage de Dieu et de l'humanité dans une copénétration péricorèse, on dit en termes techniques et théologiques. Et donc cette copénétration, elle est bien une sexualité. Et elle dit bien ici une image sexuelle pour dire l'union mystique.
Oui, donc, encore une fois, c'est un classique dans toutes les traditions, au fond, absolument. De dire l'union mystique en termes érotiques. Oui.
Exactement.
Mais alors, comment expliquez-vous alors que ce que... dans l'histoire de la chrétienté, dans un sens large, finalement, c'est quand même le modèle de vie monastique qui a été considéré comme le plus accompli, y compris chez les pères du désert, qui fuyaient quand même le monde. Bon, les premiers pères de l'Église ne sont pas des gens qui se sont mariés ou qui ont...
Il y en a qui sont mariés.
Il y en a quelques-uns,
oui,
voilà.
Oui, c'est, enfin,
c'est vrai que le modèle, c'est quand même de renoncer à la sexualité humaine pour pouvoir entrer dans l'union divine. Donc, comment vous qui êtes tellement inspiré par ces pères de l'Église, comment tenir ensemble, je dirais, ces deux choses? Est-ce que finalement, il vaut mieux se retirer et vivre en ermite ou aller sur le mont Athos, à condition qu'on soit un homme, évidemment? Ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, vivre dans ce monde, dans l'union, avec l'autre, avec les autres? Donc, comment...
Je crois que c'est pas « il ne vaut mieux », il vaut mieux, c'est le fait que chacun a sa vocation. Et que, en fait, de toute façon, nous avons tous des vocations de mariage à nous-mêmes, de masculin et de féminin en chaque être humain, que nous soyons homme ou femme. De toute façon, que nous soyons moines ou que nous soyons mariés, nous avons une vocation de mariage. Alors, les moines vivent ce mariage de manière intériorisée, mais nous pouvons le vivre de manière extériorisée, ce qui n'est pas désagréable en soi. Voilà. Et je crois qu'il s'agit de promouvoir la dimension mystique du mariage pour dire que, effectivement, si on n'a pas une vocation monastique, eh bien, il s'agit de ne pas rater la finalité de l'existence, c'est-à-dire d'aller vers le plein accomplissement de soi-même et d'accéder au « je », c'est-à-dire à cette dimension unique que je suis. Et je crois que, de ce point de vue-là, il s'agit d'exalter la dimension du mariage, ce qui, à mon avis, si on intégrait cette sensibilité spirituelle au mariage, ça ferait moins de divorces, parce que souvent, on bute parce que à un moment donné, l'autre se révèle dans sa différence. Et à partir du moment où il se révèle dans sa différence, il pense plus comme moi, et il devient une entrave à ma pseudo-liberté licence, et à ce moment-là, on commence à vivre une tension qui pourrait être créatrice et qui pourrait nous amener vers un approfondissement de la relation, mais qui, souvent, malheureusement aujourd'hui, vu le nombre de divorces, va vers un échec.
Oui, et d'ailleurs, je précise que vous avez là aussi un point de vue très nuancé sur la question du divorce, que vous regrettez, évidemment. Vous regrettez
absolument,
le nombre de divorces, comme
clair.
Tout le monde, d'ailleurs, ce qui
bien
paraît
sûr,
normal. Mais en même temps, vous n'êtes pas dans une rigidité dogmatique par rapport à cela, parce que c'est vrai que dans le christianisme, le divorce est quand même considéré comme la division de la chair faite une, donc presque comme une chose diabolique, hein, d'une certaine
tout
façon. Mais vous mettez des bémols là-dessus.
Je mets des bémols, et même j'ai eu une audace particulière, après avoir discuté avec des amis prêtres catholiques, hein, c'est de chatouiller la question centrale de l'indissolubilité du mariage, qui est quand même la pierre sur laquelle s'est fondé tout le synode, les deux rencontres synodes sur la famille dans l'Église catholique dernièrement, 2014 et 2015. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce détail maintenant, mais je prends les évangiles pour quand même remettre en question cela, parce que clairement le Christ dit que le mariage ne vaut que pour ce temps et le mariage n'est pas éternel. Le mariage, il est pour ce siècle et pour les conditions dans lesquelles nous sommes ici. Donc ça, c'est un aspect. Et maintenant, je crois que le fondamental, et c'est ça la différence entre la théologie catholique et la théologie orthodoxe, c'est que la théologie catholique est centrée beaucoup, à cause de Thomas d'Aquin, sur la nature. Et si c'est centré sur la nature, ça veut dire que on considère le mariage comme une réponse adéquate à la nature, où en fait on a le désir de l'autre et le désir aussi de la procréation, voilà, et de la continuité de l'espèce. Ça, c'est la dimension naturelle. Et donc on va codifier le mariage de telle manière à que la société vive en paix dans des relations qui soient paisibles et qui soient organisées. Et c'est là où il y a une institutionnalisation du mariage. Mais le point de vue orthodoxe est différent. Le point de vue orthodoxe n'est pas centré sur la nature, mais sur la personne. Ce qui compte, c'est l'épanouissement de la personne. Or, si une personne s'est détruite à l'intérieur du mariage, pourquoi faire perdurer ce mariage qui n'est pas un absolu? Et c'est là où, effectivement, j'ose quelque chose d'assez, assez important qui vient contredire un peu les mentalités occidentales. Mais je crois qu'il faut le faire parce que on n'a pas le droit de laisser se détruire des personnes au nom d'une institution qui concerne la nature. Et pour moi, c'est un cri du cœur en même temps. Et quand je vois toutes les personnes qui souffrent, car il y a des femmes, par exemple, qui souffrent du divorce, qui n'ont pas demandé, et quand l'homme est parti ailleurs ou bien qu'il y a des circonstances particulières, déjà, elles sont pénalisées par le fait du divorce, parce qu'elles aiment l'homme avec qui elles étaient. Et deuxièmement, elles sont pénalisées parce qu'elles sont excommuniées. C'est double peine. Et je trouve cela insupportable. Et j'invite officiellement ici le milieu catholique à regarder du côté des personnes. Et je suis d'autant plus encouragé que le pape François le fait. Le pape François, dans ce dernier encyclique, il a bien souligné la dimension pastorale, et la dimension pastorale s'adresse aux personnes et remet en question le principe naturel comme fondement, en tout cas. Voilà, donc là, il y a une transition, et je peux espérer qu'effectivement, la chrétienté dans son ensemble va vivre dans cette transition, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il s'agit de considérer les trajectoires humaines, et que ces trajectoires sont fondamentales, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de l'éros, et justement, quel est le but de la vie. Et le but de la vie, c'est l'accomplissement de l'éros en agapé, c'est-à-dire dans le plein amour, dans le respect des personnes, et la personne peut vraiment aimer que s'il est d'abord respecté, considéré, et je crois qu'il y a là une exaltation de la personne que je voudrais promouvoir.
Oui, Philippe Dautet, alors si je vous ai bien lu et si j'ai bien compris ce que vous dites, finalement la clé, c'est d'entrer dans l'amour, quelle que soit la porte d'entrée que l'on choisisse, c'est de faire cette expérience. D'ailleurs, ça me fait penser au poète persan Rumi qui disait finalement que tu aimes quelque chose qui est de ce côté ou de l'autre côté, qu'importe, ce qui compte, c'est d'aimer. Et d'entrer dans cette expérience de l'amour qui pour vous est fondamentale et qui peut-être est... que vous considérez comme étant, et probablement à juste titre, l'apport majeur du christianisme. Ce qui ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'amour, évidemment.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que l'accent dans les évangiles est véritablement mis sur cette expérience comme l'expérience clé de la réalisation de soi et de la divinisation de l'homme.
Tout à fait. Voilà. Et donc je propose justement dans le livre cet axe, directement mon premier chapitre, s'intitule « Tu aimeras ». Pour dire que l'éros est orienté vers le plein accomplissement de l'amour, et ce qui récapitule toute la foi chrétienne, ce sont les deux premiers commandements. Tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bien le tu aimeras. Et le tu aimeras est à l'inaccompli, c'est-à-dire il est au futur. Ça veut dire aujourd'hui...
Et surtout j'aime... pas à l'impératif.
Et surtout pas à l'impératif. Parce qu'on peut pas aimer sur commande.
Bien
c'est
sûr.
Pas vrai. Et donc il s'agit pas d'aimer d'une manière impérative, mais de se disposer à l'amour. Et se disposer à l'amour ne peut être que du registre de la personne, évidemment. Et donc ça dit clairement ici que l'axe, même je dirais judéo-chrétien, est dans le « tu aimeras » et que l'amour est le but de la vie et que toute la vie consiste à apprendre à aimer.
Oui, et à accueillir.
Et à accueillir.
Accueillir à la fois l'amour et l'autre avec un A majuscule et les autres. Au fond, ce sont les deux axes.
Voilà, et puis même accueillir le cosmos. Et donc aimer, c'est aussi aimer chaque élément, chaque brin d'herbe, chaque fleur, être dans l'émerveillement de tout ce qui est. Et ainsi, je crois qu'il s'agit d'ouvrir vers l'amour universel.
Alors, je vais vous lire un petit extrait de Saint Isaac, qui est lié justement à cet accueil et qui est en même temps lié à au don des larmes hein, dans cette tradition. Et vous allez nous en dire quelques mots. Qu'est-ce que la pureté de cœur ? En peu de mots, c'est la miséricorde du cœur à l'égard de l'univers entier. Et qu'est-ce que la miséricorde du cœur ? C'est la flamme qui l'embrase pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour tout être créé. Quand il songe à eux ou qu'il les regarde, l'homme sent ses yeux s'emplir des larmes d'une profonde, d'une intense pitié qui lui étreint le cœur et le rend incapable de tolérer, d'entendre, de voir le moindre tort ou la moindre affliction endurée par une créature. C'est pourquoi la prière accompagnée de larmes s'étend à toute heure aussi bien sur les êtres dépourvus de parole que sur les ennemis de la vérité ou pour ceux qui lui nuisent pour qu'ils soient gardés et purifiés. Une compassion immense et sans mesure naît dans le cœur de l'homme et l'assimile à Dieu. Philippe Dauté, un mot sur ce très beau texte qui est justement un texte de l'accueil et en même temps de la compassion, comme si les larmes nous permettaient de prendre sur nous aussi le chagrin de l'autre. C'est une façon d'aimer aussi.
Tout à fait. Je vous remercie pour cette citation que je trouve magnifique et qui correspond tout à fait avec mon approche ici. Donc cette sensibilité, et je crois que aimer, c'est s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est accepter sa sensibilité et sa vulnérabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit d'oser cette sensibilité à l'autre. Et cette sensibilité au cosmos aussi, puisque cette parole, elle dit vraiment l'amour pour tous les êtres. Et si nous nous ouvrions dans notre sensibilité, nous verrions que la substance des choses est amour. Est amour dans le sens où tout est relié, tout est en interdépendance, tout est en interrelation. Et c'est cela l'amour. Ça veut dire que on ne peut pas être coupé des autres, du monde, et que nous sommes concernés partout, et nous sommes concernés partout. L'amour rime avec l'unité ici. D'ailleurs, je pense immédiatement que en hébreu, érad, c'est le mot qui est l'unité, et c'est le même chiffre que l'amour, le nombre 13 en lettres hébraïques. Donc l'unité et l'amour ont à faire ensemble, ça veut dire, comme disait Victor Hugo, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Et donc je suis en relation avec tout, et tout participe ici d'une unité qui fait que les êtres sont tous liés les uns aux autres, et si nous sommes tous en interrelation les uns avec les autres, alors vouloir nuire à l'autre, c'est nuire à soi-même. Je crois qu'il est grand temps qu'on le saisisse. Et que, en fait, qui dit l'amour ne peut pas se conjuguer avec quelques mépris de l'autre ou dénigrement de l'autre ou bien indifférence à l'autre. Donc, c'est une ouverture de conscience, en fait. Et je crois que l'amour est une dilatation de l'âme, une dilatation de la conscience. Et je crois que la seule chose qui puisse, et ce à quoi chaque être humain aspire, d'ailleurs, c'est à cette dimension de l'amour, d'être autant respecté que d'être considéré par les autres, que, à l'inverse, participer de cette unité à laquelle nous sommes, voilà, qui est notre fondement, en fait.
Et à laquelle nous sommes appelés aussi, puisque appelés, finalement, le mal, pour vous, c'est presque... Il n'y a pas de mal et de bien, il y a du désamour, de la dispersion, ou de l'amour et de l'unité. Enfin, voilà. On a vraiment l'impression que ça va dans ce sens.
Tout à fait. Justement, je parle de la question du mal, qui pour moi est la perversion de l'éros, à savoir que en l'être humain, il y a une aspiration à être, et une aspiration à aimer, à être aimé et à aimer. Et donc, cette aspiration, elle est bonne en chaque être humain. Donc, pour moi, je considère qu'on ne naît pas violent, mais qu'on peut le devenir. On ne naît pas terroriste, mais on peut le devenir. On ne naît pas mauvais, mais on peut le devenir. C'est toute la question de la liberté. Mais au fondement, chaque être humain aspire à l'amour. Et je crois qu'il s'agit toujours de le répéter pour dire que c'est pas substantiel, mais c'est dans le mouvement de la liberté. Donc, ça veut dire que ça peut toujours être corrigé. Et de ce point de vue-là, eh bien, pour moi, le mal est la perversion du bien. Et donc, c'est quelque chose qui est dévié, qui est déformé. Et il s'agit de lutter contre le mal. Ça veut dire de, finalement, se laisser guérir des perversions. Et c'est tout le chemin thérapeutique Donc, l'avenir est ouvert et nous ne sommes pas voués au mal et nous pouvons le combattre parce que nous avons les dispositions à l'intérieur pour le faire.
Alors, le combattre, évidemment, on peut le combattre en soi-même. On ne peut pas le combattre à l'extérieur de nous, Philippe Dautet.
D'abord, le combattre en soi-même. Pour le combattre à l'extérieur, c'est une prise de position. Et je crois qu'il y a une négligence de la dimension du mal. Quand on voit les événements qui nous ébranlent encore, du terrorisme et du meurtre gratuit comme cela, on est effectivement effrayé. Et en même temps, eh bien, je crois qu'il s'agit d'avoir une posture ferme, parce que au-delà de gens qui sont des bras armés d'une idéologie, il y a une infiltration du mal. Et j'entends par là d'une perversion. Mais cette perversion, elle peut toucher aussi chacun de nous, d'une certaine manière. D'ailleurs, pour moi, ce qui ne m'inquiète pas, ce n'est pas un Hitler qui peut m'inquiéter, mais c'est comment un Hitler peut avoir un écho dans toute une population. C'est ça qui est problématique. Qu'il y ait un fou terroriste en Iran ou en Irak, pardon, ou en Syrie, ou voilà, peu importe. Mais comment il y a un écho à travers différents êtres. Et donc, il y a une perméabilité au mal, et j'essaie d'exprimer le fait que le mal vient par défaut. C'est-à-dire, il vient pas parce qu'on le décide sciemment, froidement, mais il vient parce qu'on consent et on est dans une complaisance. Et je crois que on peut pas parler de l'amour sans parler du mal, parce qu'il y a toujours une lutte à vivre pour promouvoir l'amour et pour promouvoir la vie, et en étant attentif aux complaisances et aux complicités intérieures avec des choses qui ne sont pas réglées en nous et par lesquelles peuvent s'engendrer des perversions.
Et pour cela, vous croyez beaucoup, je crois, dans la force de la prière, à la fois pour se changer soi-même et pour transformer le monde.
Voilà, la force de la prière, entendons prière comme mode de relation à Dieu, mais aussi prière comme mode de sensibilisation à l'autre, pour une ouverture à l'autre et une ouverture de conscience vers l'unité du monde.
Merci beaucoup, Philippe Dautet, d'être venu nous rendre visite aux Racines du Ciel. L'émission est passée très très vite, j'ai pas vu le temps passer. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le plus récent, paru aux éditions Nouvelle Cité, Eros et Liberté, clé pour une mutation spirituelle. Je signale aussi que toutes les activités de votre centre peuvent être retrouvées sur Internet, sur le site www.centresainte-croix.net. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lélie Anvar. Et tout de suite, vous retrouvez Frédéric Lenoir pour Les Chemins de Sagesse.
J'ai parlé dans les dernières émissions de quelques faux amis du bonheur, l'injonction au bonheur, le bonheur dans le désir mimétique, les joies passives. Et maintenant, je voudrais, pour terminer, on arrive un peu à la fin de cette année, au terme de ces chroniques, il n'en reste quelques-unes, et je voudrais poser quelques questions importantes qu'on entend souvent, qui sont des questions assez essentielles sur cette notion de sagesse, cette notion de bonheur. Et la première que je voudrais poser, qui était une question très importante, c'est est-ce qu'on peut vraiment progresser dans le bonheur ? Vous savez qu'il y a quand même un débat là-dessus. Un certain nombre de gens disent non, les choses sont déterminées. On va naître avec une génétique, un tempérament, heureux ou malheureux, joyeux ou triste. Et finalement, c'est quasiment impossible d'en changer. Le bonheur tient essentiellement à notre sensibilité. Le grand philosophe qui pense ça, c'est Schopenhauer, puisqu'il nous dit qu'on est totalement déterminé à être heureux ou malheureux en fonction de notre sensibilité, en fonction, on dirait aujourd'hui, de nos gènes, et qu'un individu qui a une capacité d'être heureux restera toujours dans cette capacité-là, il se réjouira toujours de ce qui arrive, et un individu qui a plutôt une capacité d'être malheureux, ben, restera toujours plutôt malheureux, il verra toujours, on dira, le verre à moitié vide. Donc c'est toujours le vieux débat entre ceux qui voient le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, entre les optimistes et les pessimistes, et tout ça conditionne fortement notre capacité à avoir une satisfaction profonde de la vie. Alors il y a effectivement ceux qui sont partisans de ce déterminisme, et puis il y a ceux qui pensent, ils sont plutôt majoritaires, qu'il y a effectivement non pas des déterminations, mais des conditionnements au bonheur. Donc je distingue bien, c'est une distinction importante, le déterminisme du conditionnement. Le conditionnement, ça veut dire qu'il y a effectivement un poids de la nature de la sensibilité, du caractère, de la génétique, qui conditionnent en grande partie notre capacité à être heureux, mais pas totalement. Donc la première chose, c'est que le conditionnement n'est pas total, et il permet donc une marge d'évolution qui nous permettrait d'être davantage heureux en fonction des choix qu'on va faire, en fonction du travail qu'on va faire, des exercices qu'on va faire, du regard qu'on va porter sur la vie. C'est ce que pense la majorité des philosophes. Aristote le disait très clairement, le bonheur tient en grande partie à la chance, au destin, c'est-à-dire effectivement à notre sensibilité, le caractère qu'on a hérité, on dirait encore une fois aujourd'hui notre génétique. Et puis, il dit, pour une part aussi, il tient au travail qu'on va faire sur soi, c'est-à-dire la vertu, la morale, l'éthique, c'est tous nos choix de vie qui vont orienter notre vie vers une vie plus ou moins heureuse ou malheureuse. Aujourd'hui, les chercheurs, les sociologues, les scientifiques qui travaillent sur la question du bonheur sont tout à fait d'accord avec Aristote. C'est-à-dire, grosso modo, on nous dit que voilà, la génétique, c'est à peu près 50%, et puis le reste, un tout petit peu les conditions extérieures, très faiblement, le fait d'être né dans tel ou tel pays, par exemple. Mais ce qui compte aussi, c'est effectivement les choix de vie qu'on va faire et le regard qu'on va porter sur l'existence. Et on peut évoluer dans ce regard, on peut changer, on peut grandir, on peut régresser. Alors les chercheurs, les sociologues ont fait une étude assez intéressante. Ils appellent le taux de bonheur conditionné par nos gènes le taux de bonheur fixe. Ça veut dire que selon notre génétique, selon notre caractère, notre sensibilité, comme dirait Schopenhauer, on a tel taux, disons, une capacité de bonheur, de satisfaction de la vie, de 5 sur 10 pour un individu, de 9 sur 10 pour un autre, de 3 sur 10 pour un troisième. Et puis, si on ne fait aucun travail sur soi, si on se contente de vivre, je dirais, de manière spontanée, mais sans essayer de grandir, de progresser, de se transformer, on restera toute notre vie à ce taux de bonheur. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive dans notre vie, on sera toujours plus ou moins à ce niveau-là. Et ils l'ont d'ailleurs vérifié à travers des expériences extrêmement intéressantes, notamment des gagnants au loto. Donc, ils ont pris plusieurs centaines aux États-Unis de gagnants à la loterie, et ils ont vu que les gens passait de leur, disons, quelqu'un qui est à 5 sur 10 va passer à 10 sur 10 lorsqu'il va gagner, parce qu'il va être dans une période euphorique. Et puis ils ont établi que en moyenne, au bout de 6 mois, la personne va retomber à 5 sur 10. C'est-à-dire, ce qui le rendait heureux et malheureux avant, ça continue d'être les mêmes choses. Vous pouvez gagner au loto et être extrêmement heureux, mais si vous êtes un anxieux, vous continuerez d'être anxieux, et donc ce qui vous rendait malheureux avant parce que vous êtes anxieux, ça continuera, et ça continuera même peut-être plus encore, parce que vous aurez plus d'argent et vous aurez plus de raisons de vous soucier d'autres choses. C'est-à-dire qu'avant, vous vous souciez peut-être de pas avoir assez d'argent, là, vous vous souciez qu'on va vous voler votre argent. Donc l'anxiété est le problème, plus que le manque d'argent. Ce qui fait qu'effectivement, le taux de bonheur fixe évolue. Ils ont fait on revient toujours à son taux de bonheur fixe si on ne travaille pas sur soi. Ils ont fait exactement la même observation. À l'inverse, avec des gens qui ont été des grands accidentés de la route et qui sont devenus handicapés, en moyenne, leur taux de bonheur chute très très bas, 0 ou 1 sur 10 pendant 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, en moyenne, ils reviennent à leur taux habituel. Quelqu'un qui était à 5 sur 10 revient à 5 sur 10. Ce qui, avant son handicap, le rendait heureux malheureux, reste la même chose. Et donc, on retrouve du bonheur dans l'amitié, dans le plaisir d'écouter de la musique, de manger, etc. Et l'observation nous dit que ces personnes qui ont vécu ces tragédies, c'est souvent dans ces populations-là qu'on va avoir une évolution positive du bonheur, parce que ce drame les a fait réfléchir, les a amenés à transformer leur regard sur le monde, et qu'ils vont avoir la capacité de progresser dans le bonheur, ce qu'on appelle la résilience. Et que la résilience permet de passer d'un état de bonheur à un état supérieur, à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté qui parfois peut être une difficulté majeure. Alors on peut être écrasé et ne jamais grandir, on peut au contraire utiliser une maladie, une épreuve, un accident, pour regarder la vie autrement et pour développer une capacité d'être heureux plus importante. Ce qui fait que ça nous montre effectivement que des individus qui travaillent sur eux-mêmes, des individus qui vont par exemple méditer, qui vont prendre le temps de vivre autrement, de savourer davantage l'existence, d'être davantage présent dans l'instant, qui vont réorienter leur vie autour des choses essentielles, qui vont faire les bons choix de vie, vont pouvoir grandir dans la satisfaction de la vie, ce qu'on appelle le bonheur. Et ça relève profondément de leur choix, de leurs décisions, et pas uniquement de la génétique.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours.